Des voix, des histoires, c'est la base. La base. Bruxelles nous appartient.
Bon ben, en somme, je suis né pratiquement dans le cinéma. Donc, je suis né en 54 et ma mère était ouvreuse dans un cinéma de province, donc petite salle qu'il y avait dans toutes les villes. Et à 7-8 ans, j'ai appris le métier. Je suis allé à l'école, je faisais rien, mais je faisais cinéma à l'école. Je faisais même, j'ai eu le culot à l'époque, d'être parti de l'école où j'étais pour aller faire une projection en 16 mm dans une école à 200 mètres de là. Si bien que j'ai eu les gendarmes à la maison en vélo qui cherchaient après moi. Oui, non, je suis né vraiment dans le cinéma. Alors j'ai appris sur le tas, comment on dit ? J'ai appris sur le tas avec... plusieurs personnes et énormément de techniciens, ce qui m'a appris à connaître en un temps vraiment record le système de projection de pratiquement toutes les machines. Je lisais beaucoup, j'ai passé des nuits dans des cabines avec des techniciens qui réparaient des pannes, si bien que ça m'a ouvert les portes à tout, parce que je faisais cinéma dans la même ville, c'était à La Roche-en-Ardenne. Je faisais cinéma dans les deux salles, quoi, hein, qui étaient concurrentes, qui ne s'entendaient pas. Mais l'hiver, quand ils n'avaient personne pour projeter, moi qui allais au cinéma, ben, autant les gens attendaient, il n'y avait pas de projectionniste, ben, je faisais la projection. Et donc j'ai commencé de là à aller à Bastogne, à Bertry, à Autun, toute la province du Luxembourg, environnante et Rezée par exemple. Toutes des salles qui ont disparu ou qui sont vouées à autre chose maintenant. On fait beaucoup de centres culturels ou de salles de sport, etc. Et alors je suis arrivé à Bruxelles. Et dans les années, début des années 70, j'ai eu l'opportunité de remplacer au ministère des Affaires étrangères, ici à Bruxelles, pendant 15 jours, le projectionniste, qui lui était monteur de films, et lui allait arrêter, et lui m'a mis en rapport avec des gens de cinéma à Bruxelles, et notamment les techniciens qui avaient installé la cabine de projection. J'ai commencé par faire des remplacements. Je suis arrivé alors à ce moment-là à travailler pour les distributeurs de films. Toutes les maisons de films ont leur projectionniste, mais ça c'est dans leur salle privée, donc en général chez eux. Warner avait sa salle privée. Universal avait sa salle privée, Sony avait sa salle privée, donc. Mais moi, j'ai travaillé pour eux tous. Mais c'était des petites salles, hein. C'était des petites salles, comme vous diriez, vous aménagez ici la cave, vous faites une salle de vision, ce qui est très possible en abattant les murs, si tant qu'on ne touche pas aux pièces maîtresses de soutènement. Tout le monde avait sa salle de vision à l'époque parce que c'était une mode. Le film, c'était un moyen de diffusion comme le livre. Il y a des gens qui allaient dans la bibliothèque, allaient en général au cinéma et vice-versa. Parce que, même à l'heure actuelle, beaucoup de films sont adaptés de bouquins. Dans le temps, dans les cinémas, on cassait le film, il fallait réparer. Quand il n'y avait qu'une salle, il n'y avait pas de problème. Moi, j'ai travaillé au Métropole ici, en faisant 4 salles qui n'étaient pas sur les mêmes niveaux. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, on avait l'ascenseur, mais le temps de prendre l'ascenseur, on allait plus vite par les escaliers, on avait des escaliers de service. Donc, il n'y a rien de plein pied. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'effectivement, les films ne commencent pas tous en même temps. Parce qu'à l'époque, tout n'était pas automatisé. Il fallait chaque fois démarrer les cabines. Donc, on démarrait midi, midi 5, midi 10, midi quart. Là, OK. Et alors, on savait à peu près, après la première, le premier jour, on savait à peu près comment ça allait. Mais quand le film casse, il faut se trouver dans la cabine s'il casse. Et si on ne s'y trouve pas, ben, pour arriver à réparer avec le film qui a coulé à terre ou quoi, ça prend du temps. Ça prend 2, 3, 4, 5, 10 minutes parfois. Donc c'est 10 minutes de retard. Mais les 10 minutes de retard qu'on a, elles vont ne faire que s'augmenter. Hein. Alors à un moment donné, on arrive à deux films qui se terminent en même temps. Deux films qui doivent démarrer en même temps, ou trois films. Et parfois, c'est la catastrophe. Parfois, on doit annuler une séance parce qu'on n'en sort plus. Tout d'abord, les films étaient en acétate. Et maintenant, les derniers films qu'on avait étaient en polyester. Polyester ne cassait plus. Tandis que l'acétate, ça cassait. Forcément, les dents s'abîment, les perfos s'abîment. Et ça casse à l'usure. Tout dépend de l'endroit où il casse. S'il casse après que le film ait été réceptionné dans la machine, la bobine réceptrice, s'il casse vraiment en bas, le film va couler, au lieu de se rebobiner, il va couler à terre. On rechargeait la pellicule où on est arrivé, donc si bien qu'on pouvait avoir carrément une scène importante qu'on n'ait pas vue, et les gens ne comprenaient plus rien au film. Hein. Oh ben, bon, c'est beaucoup de chipotage. Hein. On prépare son film, on le monte. Maintenant, on assemble toutes les bobines. Mais à l'époque, on avait deux projecteurs dans une cabine et on faisait les reprises manuellement. Donc, on avait un point de repère sur l'écran qui nous permettait de démarrer le projecteur pour faire ce qu'on appelait une reprise. Mais bon, sur un film comme Ben Hur, on en faisait 15. Il ne fallait pas que ça se voit à l'écran. Bon, quand on est habitué, il n'y a pas de problème. Mais bon, maintenant, même ici, dans les dernières années, tout était monté sur une bobine et on n'arrête plus. Hein. Il n'y a plus de reprise, il n'y a qu'un projecteur. Il est en général mieux centré parce qu'il n'y en a qu'un. Parce que dans le temps, qu'on le veuille ou non, les deux projecteurs étaient l'un côte à côte. Il fallait quand même se mettre entre les deux pour pouvoir recharger le film. Donc, les projecteurs ne pouvaient pas être dans l'alignement de l'écran. C'est pour ça que dans certaines salles qui n'étaient pas au top, on a parfois l'impression que le film n'était jamais net. Et tout dépend où on était mis dans la salle, évidemment. Parce qu'à l'époque, celui qui était tout à fait à droite, quand c'était du 70 mm, on rappelle le début du 70 mm, les gens se demandaient c'est ce que c'était, hein. c'était grand. La censure en Belgique a été levée, si on peut dire, en 1990. En 1990 est arrivé Canal+, France, qui s'est installé en Belgique. Canal Plus Belgique. Et pour avoir des abonnés, il fallait évidemment que les gens louent un décodeur. Et bon, pour attirer les gens, ils ont fait le système qu'ils avaient en France. Ils programmaient un film X, classé X. Mais en Belgique, le X était coupé. On coupait. On ne pouvait pas voir un sexe à l'écran. Il n'y avait rien à faire. À l'époque, on disait un film léger. On ne disait pas de X, on ne disait pas porno, on disait le film était érotique, c'était un film léger. Donc on coupait un film de 1h30, mais on faisait peut-être plus que 50 quand on avait tout coupé. Alors arrive la télévision payante qui propose du porno sans coupure. En plus, c'est la communauté française Canal+. Alors il y avait un problème. Alors, du jour au lendemain, ça a été aboli. Mais avant cela, les vidéoclubs qui ont commencé à louer du X sous le manteau, donc tout était en vitrine. Et pour les clients qui connaissaient, ils avaient un catalogue spécial, ils filaient les cassettes. Et alors, quand l'exploitant l'a appris, il a dit, mais moi alors, ce que je vais faire, pour les clients qui le demandent, la dernière séance, il allait chercher une copie en Hollande du même film qui passait ici, coupé. Et à la dernière séance, il y avait énormément de monde, parce que le film n'était pas coupé. Mais vu que c'était des fonctionnaires de la police des mœurs, c'est des gens qui travaillent de 9 à 5. Hein. Donc, ils venaient le jour où on mettait le film à l'affiche, ils venaient voir le film, ils disaient « ça, il faut couper, ça, il faut couper, ça, il faut couper ». Alors, on coupait, on coupait, on coupait. Ils venaient à la première séance, ils regardaient « ok, ça va ». Ben, ils ne revenaient plus, hein. Ils ne revenaient plus. Alors, donc, ils devaient faire ça, les cinémas changeant de programme une fois par semaine, donc le même jour. Disons qu'ils travaillaient à fond la caisse, le jour de la sortie, et puis après, ils ne revenaient plus. Mais maintenant, si le gars se faisait prendre, ben, au minimum de l'amende qu'il allait avoir, on lui aurait saisi la copie. La copie ne lui appartenant pas, ça c'est un gros risque, un gros risque. Des morceaux coupés quand le film était présenté à la commission de contrôle de film. Donc, les coupures étaient opérées chez le distributeur et devaient être mises au greffe du palais de justice. Donc, il n'y avait pas question de garder les coupures. Par après, ça s'allégeait, on coupait et le gars mettait les coupures sur le côté, dans des boîtes. Mais le gars qui va devoir aller remettre ça un jour dedans, même par curiosité, bon amusement, hein, parce qu'il peut prendre son thermos et ses tartines. Surtout là-dedans, ici, quand on coupe un plan, bon, si c'est bien coupé et que c'est numéroté, on sait où ça va. Celui qui a fait du montage, il comprend. Mais ici, dans le porno, il n'y a rien de logique. Si vous regardez un film porno, ils sont dans le salon, ils sont en train de... Il fait tout bleu, et toc, 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 la porte. Il est là, il n'y a même pas de cendrier. Et puis, ils sont en peinard, les cendriers sont pleins. Et puis, à un moment donné, on toque à la porte. Il n'y a plus personne. En somme, c'est la synchronisation qui est arrivée trop tard. La femme est déjà assise, elle est rentrée. Et on entend toc, 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 le gars se lève pour ouvrir la porte. Et il y a quelque chose ils ont inversé quelque chose au montage. Mais c'est rigolo, c'est marrant. Les gens qui sont dans la salle rigolent en général. Ça les détend peut-être. Il y a eu une forte évolution que vraiment maintenant... dans les projectionnistes qu'il y a encore à l'heure actuelle, n'ont pas connu, et ne connaîtront jamais, puisqu'on est en numérique. Mais ceux qui ont connu, soit ont arrêté, parce que justement, il n'y avait plus ce bruit, il n'y avait plus tout ce tralala de préparer un film. Oui, il fallait être fou à l'époque, il fallait être mordu. Et je n'ai jamais eu l'impression, que je travaillais. Jamais, jamais, même à l'heure actuelle. Moi, quand je vois les gens qui stressent, qui sont là, ils doivent pointer à telle heure, je n'ai jamais travaillé comme ça.
La base, ce sont des histoires et une cartographie de Bruxelles à écouter sur bna-bbot.be.